la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Je ne suis pas allé au lycée ce matin. C'est-à-dire que j'y suis allé, mais seulement pour demander au professeur principal la permission de rentrer à la maison. Je lui ai donné la lettre par laquelle mon père sollicitait une autorisation d'absence pour raison familiale. Il m'a demandé quelle sorte de raison familiale ce pouvait être. Je lui ai dit que mon père avait été réquisitionné pour le service du travail obligatoire. Alors il n'a plus fait de difficultés. Je me grouillais de rentrer, pas à la maison, mais au magasin. Mon père m'avait dit qu'il m'y attendait. Il avait même précisé que je me dépêche parce qu'on pouvait avoir besoin de moi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a fait rentrer de l'école. Ou bien pour me voir à ses côtés ce dernier jour avant de quitter la maison. Il avait aussi dit ça, mais à un autre moment. Il l'avait dit à ma mère, me semble-t-il, quand il lui avait téléphoné le matin, parce qu'on est jeudi et que tous les jeudis et dimanches après-midi, je vais impérativement chez ma mère. Mais mon père lui avait dit « Je n'ai pas la possibilité de t'envoyer Gyurka ». Et c'était la raison qu'il avait donnée. Ou peut-être pas. J'avais un peu sommeil ce matin à cause de l'alerte aérienne de la nuit, et je ne me souviens peut-être pas très bien. Par contre, je suis sûr qu'il l'a dit. Si ce n'est pas à ma mère, c'est à quelqu'un d'autre. J'ai échangé moi aussi quelques mots avec ma mère, mais je ne me souviens plus quoi. Je crois qu'elle m'en voulait un peu parce que je n'ai eu que peu de temps pour elle, à cause de la présence de mon père. Finalement, aujourd'hui, c'est lui qui compte. J'étais déjà en train de sortir quand ma belle-mère m'a dit quelques mots confidentiels, en tête-à-tête, dans le vestibule. Elle m'a dit qu'elle espérait qu'en ce jour si triste pour nous, elle pouvait compter sur un comportement convenable de ma part. Je ne savais pas quoi dire, alors je n'ai rien dit. Mais elle a du mal à interpréter mon silence parce qu'elle a poursuivi tout de suite en disant qu'elle ne voulait pas heurter ma sensibilité en me faisant des recommandations qui, elle le savait, étaient de toute façon superflues. Car elle ne doutait pas qu'en grand garçon de bientôt 15 ans, je pouvais mesurer par moi-même la gravité du malheur qui nous frappait, comme elle a dit. J'ai hoché la tête, j'ai vu que ça lui suffisait. Elle a ébauché un geste de la main vers moi et je craignais déjà qu'elle ne veuille m'embrasser. Mais elle n'en a rien fait. Elle a seulement poussé un soupir long et saccadé. J'ai remarqué que ses yeux s'embuaient, c'était désagréable, puis elle m'a laissé partir. J'ai fait à pied la route de l'école jusqu'au magasin. L'air était pur. Il faisait doux, compte tenu du fait qu'on n'est qu'au début du printemps. Je me serais même déboutonné, mais j'ai changé d'avis. Comme je marchais contre la brise, un pan de mon manteau pouvait se rabattre sur mon étoile jaune, ce qui n'aurait pas été réglementaire. Il y a des choses auxquelles je dois désormais accorder plus d'attention. Notre cave à bois se trouve dans les parages, dans une rue adjacente. Un escalier raide descend dans le noir. J'ai trouvé mon père et ma belle-mère au bureau, une loge de verre étroite éclairée comme un aquarium, juste au pied de l'escalier. Il y avait aussi Monsieur Sutou. Je le connais parce que autrefois, il était employé chez nous comme comptable et gérant de l'entrepôt, à ciel ouvert, qu'il nous a racheté depuis. Du moins, c'est ce qu'on dit. Du point de vue racial, M. Sutou n'a pas de problème avec son charbon, alors il ne porte pas l'étoile jaune. Et tout ça n'est, à mon avis, qu'une ruse commerciale pour qu'il puisse surveiller nos biens et aussi que nous ne soyons pas obligés de renoncer totalement à nos revenus. Ce sont les toutes premières pages d'un livre vraiment saisissant qui en compte 360, de Imre Kertész, Être sans destin, un roman hongrois d'origine, traduit en français par Natalia et Charles Zaremba, publié aux éditions Actes Sud, un livre étonnant car une fausse fiction, l'histoire est celle tout à fait réelle d'Imre Kertész, qui, à 15 ans, va être déporté en 1944, tout d'abord à Auschwitz, puis à Buchenwald. Il est libéré en 1945 et il écrit ensuite sur cette expérience tout à fait étonnante et saisissante, c'est elle qui l'a décrit. En 1975, le livre est paru en Hongrie, mais complètement ignoré, même mis au banc par le régime communiste. Et puis, il a fallu attendre la chute du mur de Berlin pour qu'enfin ce récit apparaisse. Dans les premières pages, comme vous l'avez entendu, c'est assez presque anodin, si ce n'est ces petits détails qui viennent vous saisir à la gorge. Et tout le livre va se dérouler comme ça, même au sein des camps de concentration. Le regard de cet enfant, de cet adolescent, qui d'un seul coup, en une journée, comme il le dit, va vieillir profondément, eh bien, son regard reste presque étonné, naïf, bizarrement empathique sur ce qui se passe autour de lui. Il le décrit très très bien, et tout est bouleversant à plein d'endroits. Il n'y a pas de description violente des horreurs, mais plutôt un glissement lent vers une acceptation progressive de l'état dans lequel le régime nazi met les gens. Et c'est redoutablement bien écrit, c'est une expérience de lecture et ça donne à comprendre encore plus, s'il était besoin, cet incompréhensible moment de la Shoah. Ce livre, je l'ai trouvé presque par hasard dans la bouquinerie du centre de Nantes il y a une semaine. Le vendredi 5 avril, j'aurais aimé aller voir Bruit Noir en concert, mais j'étais en arrêt, bloqué du dos, impossible de tenir le temps d'un concert. Dans la journée de ce vendredi 5 avril, dans la bouquinerie du centre à Nantes, j'avais donc trouvé ce livre d'Emre Kertész et il m'était souvenu que dans le morceau Joy Division de Bruit Noir, Pascal Boisys fait référence à Emre Kertész. Alors c'était comme une espèce de signal, je devais acheter ce livre et le lire. Chose faite donc, merci Pascal Boisys pour cette recommandation indirecte. Et on écoute donc pour terminer cette chronique, je lire le morceau Joy Division de Bruit Noir.
Qui disparaissent. Je suis dans le 13e appartement. Le 13e appartement dans lequel j'aurais vécu. On entend un mec qui doit tondre la pelouse ou nettoyer un mur au Karcher, j'en sais rien. Quand j'avais 17 ans, je suis arrivé à Paris, au lycée, et j'ai entendu ce son de batterie pour la première fois. Joy Division. Heart and soul. Heart and soul. Combien de fois j'ai écouté ce disque dans les 13 appartements où j'ai vécu. Heart and soul. One will burn. Heart and soul, one will burn. À la fac, plus tard, Bertrand m'a prêté un livre avec les paroles de Ian Curtis, le chanteur de Joy Division. Le drame de Ian Curtis, c'est pas tellement qu'il ait été malheureux, c'est normal. Ce qui est surprenant, ce qui est vraiment triste, c'est qu'il ait été entouré d'abrutis toute sa vie. C'est miraculeux qu'il ait pu faire quelque chose. C'est miraculeux d'arriver jamais à faire quoi que ce soit. On est tellement, tout le temps, entouré d'abrutis. Le livre que m'avait prêté Bertrand, c'était une édition italienne des paroles de Ian Curtis, avec d'un côté les paroles en anglais et de l'autre en italien. Du coup aussi, peut-être à cause des divisions de la joie et aussi du suicide bien sûr. Depuis ce moment-là, Joy Division est associé pour moi à Primo Levi, Atrocity Exhibition, Heart and Soul. step inside. This is the way. Step inside. This is the way. Moi, à bientôt 43 ans, sans bientôt plus de gencives. Peut-être que je vais perdre mes dents comme Welbeck sur les photos dans Rock et Folk. Quelle horreur la vieillesse, quelle horreur la vieillesse. Peut-être que je vais perdre mon cerveau comme Lou Reed avec Metallica. Quelle horreur la vieillesse. Au moins, Ian Curtis n'a jamais perdu ses dents. Au moins, Ian Curtis n'a jamais fait de musique avec Metallica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heart and soul. Presque tout le monde a brûlé dans les divisions de la joie et dans les camps. Sauf Primo Levi et mon grand-père et Imre Kertész. Jean Améry. On peut avoir d'autres soucis que des dents qui vont partir. On peut avoir d'autres soucis comme des gens comme Ian Curtis ou Primo Levi ou des gens qui font leurs courses comme ça par hasard dans une épicerie. On peut avoir d'autres soucis. C'est pas tellement triste qu'il ait été triste, c'est tellement triste qu'il ait été entouré d'abrutis. C'est pas tellement triste qu'on soit tellement triste. Tellement triste qu'on soit entouré d'abrutis. On est tellement entouré d'abrutis. On devrait supprimer tous les abrutis. On garderait Ian Curtis, Primo Levi, Imre Kertész et moi, par exemple, puis Bertrand. Je rentre son livre.